Session introduction à la théologie. La Trinité par le Père Philippe à Rimont, le 15 mars 1989.
Je dois vous parler ce soir de ce grand mystère, qui est le mystère même de toute notre vie chrétienne, dans son sommet ou dans sa plus grande profondeur, l'habitation des trois personnes divines dans notre âme, en référence avec ce texte de Saint Jean, où Jésus, chapitre 14. Je vais lire tout le chapitre 14. Où Jésus dit à Judas, qui l'interroge, Judas, non l'Iscariote, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Encore un peu, et le monde ne m'apercevra plus. Mais vous, vous m'apercevrez, parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez-vous que moi, je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il alors que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voyez cette affirmation, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Lire dans Vive Flamme d'amour la manière dont Saint Jean de la Croix, vous savez que Vive Flamme d'amour est peut-être le livre de Saint Jean de la Croix, celui qui va le plus loin au point de vue de l'expression de notre vie chrétienne. Évidemment, c'est un peu trop long, je ne pourrais pas lire tout Vive Flamme d'amour ce soir, mais je vous renvoie à cela. Je lis ce petit passage. Nous ne devons donc pas regarder comme incroyable qu'une âme déjà éprouvée et purifiée par le feu des tribulations, des travaux et des tentations de diverses sortes, mais trouvée fidèle dans son amour, ne voit s'accomplir ici-bas en elle ce que le Fils de Dieu a promis quand il a dit si quelqu'un m'aime, les trois personnes de la très sainte Trinité viendront en lui et établiront leur demeure. Évidemment, pas tout à fait le texte, c'est la liberté de Saint-Jean de la Croix, mais c'est la réalité, n'est-ce pas ? Cela veut dire que son entendement sera divinement éclairé par la sagesse du Fils, que sa volonté sera remplie de délices par le Saint-Esprit, et que le Père l'absorbera d'une manière puissante et forte dans l'abîme de sa tendresse. Oui, triple affirmation qui est intéressante, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Cela veut dire que son entendement sera divinement éclairé par la sagesse du Fils, que sa volonté sera rempli de délices par le Saint-Esprit, et que le Père l'absorbera d'une manière puissante et forte dans l'abîme de sa tendresse. Et donc, l'intelligence, la volonté et l'abîme de la tendresse du Père qui absorbe d'une manière puissante et forte là. Or, il agit ainsi à l'égard de quelques âmes. Comme c'est la vérité, il faut croire que celle dont nous parlons ne sera pas en retard pour recevoir les faveurs divines. Car ce que nous racontons des opérations du Saint-Esprit en elle surpasse de beaucoup la communication et transformation d'amour dont il est question. Ce dernier amour est comme un charbon ardent. L'autre, ainsi que nous l'avons dit, est comme un charbon tellement embrasé que non seulement il est tout en feu, mais qu'il lance de vives flammes. Et ainsi, ces deux sortes d'union, l'union simple et l'union tout embrasée d'amour, sont d'une certaine manière semblables au feu divin qui dans Isaïe brûlait dans Sion et à la fournaise divine qui brûlait dans Jérusalem. Le premier signifiait l'Église militante, où le feu de la charité n'atteint pas son degré suprême. Et le second signifiait la vision de paix, c'est-à-dire l'Église triomphante, où ce feu est comme une fournaise tout embrasée d'un amour parfait. Sans doute, l'âme n'est pas, nous le répétons, parvenue à cette perfection qu'il y a au ciel, mais relativement à l'union ordinaire que l'on compare au charbon qui brûle, elle est semblable à une fournaise embrasée. Elle y jouit d'une vision d'autant plus remplie de paix, de gloire et de tendresse, que sa flamme d'amour est plus claire et plus resplendissante. L'âme sent alors que cette vive flamme d'amour lui communique d'une manière souveraine tous les biens que l'amour divin apporte avec lui. Voilà pourquoi elle s'écrie « Ô vive flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse. » C'est dans la première strophe de « Vive flamme d'amour ». Quantité de lieux à lire dans Vive l'âme d'amour, parce que pratiquement Vive l'âme d'amour exprime cet embrasement divin au plus intime de l'âme. trois personnes divines. Et Saint Jean de la Croix souligne l'action personnelle du Verbe, de l'Esprit Saint et du Père. Il l'exprime comme ce que lui-même vit, a vécu. Comment ce feu ardent transforme tout. Et l'image du feu, vous savez que Saint Jean de la Croix l'aime beaucoup, l'Écriture aussi, exprime bien ce que nous allons essayer d'expliquer théologiquement, pour montrer que ce que Saint Jean de la Croix dit n'est pas de la littérature, n'est pas un mythe, c'est la réalité divine. Il prend cette image du feu, ce symbolisme du feu, parce que justement, le feu peut pénétrer de l'intérieur sans détruire. Toujours la même image du charbon ardent. Et le charbon ardent, il devient justement lumineux par le feu. Il reste charbon, mais il est totalement transformé. Et c'est cette image de l'âme totalement transformée par cette plénitude de grâce et de charité venant de Dieu, venant de l'Esprit Saint, qui, du plus profond de l'âme, la transforme, et par là transforme l'intelligence et la volonté. Et c'est le grand thème de Vive Flamme d'Amour. Alors essayons, puisque c'est merveilleux de lire Saint Jean de la Croix, j'aimerais beaucoup mieux vous lire Saint Jean de la Croix toute l'heure. Ça vous apporterait plus que ce que je vais vous dire. Mais ce que le théologien doit faire en théologie mystique, nous sommes en théologie mystique, hein. Cherchez bien dans Saint Thomas, nous verrons Saint Thomas demain. Vous ne verrez pas ça dans Saint Thomas. Mais vous verrez la même affirmation, mais sous un style totalement différent. Saint Thomas n'a pas l'habitude de dire ce qu'il vit. C'est dommage. On aimerait un traité annexe. Mais ne le dis pas. La grâce de Saint Thomas, c'est l'objectivité du théologien. La grâce de Saint Jean de la Croix, c'est la subjectivité du saint. Subjectivité divine, hein, qui rejoint une objectivité d'amour. Mais c'est la subjectivité du saint. C'est l'âme entièrement embrasée du feu divin. C'est pour ça que c'est complémentaire. Hein. Surtout pas opposer Saint Thomas et Saint Jean de la Croix. D'abord, on le sait, selon l'histoire de Saint Jean de la Croix, que Saint Jean de la Croix était amoureux de Saint Thomas. Pas bête du tout, Saint Jean de la Croix, faut pas croire du tout, parce qu'il était bête. Les idées théologiques scientifiques, Saint Thomas, c'est trop dur. Alors je vais me cacher dans l'amour. Non, c'est pas ça du tout, ça, c'est faux, ces choses-là. Saint Jean de la Croix, quand il faisait ses études à Salamanque, avait été pris pour être un peu le responsable des études. Comme un frère aîné, quoi. Comme on fait ici. On prend des frères aînés pour leur... et dire un peu responsable. Donc, ce qui prouve que quand même, c'est pas un imbécile. Parce qu'on lui confiait cette charge. Et il les suivait avec amour. Les carmes étaient tous thomistes à cette époque. Ils ont écrit, du reste, des commentaires de Saint Thomas, qu'on ne lit plus beaucoup, et qui sont très intéressants. Moi, je les ai lus dans le temps. Les Salamantichenses, qui étaient justement les carmes qui commentaient la somme théologique de Saint Thomas. Ils la commentaient un peu à leur manière, c'est-à-dire en mettant toujours la note affective, aimante, pour montrer justement comment saint Thomas, loin d'écarter le point de vue de la mystique, était le garant de la mystique. Si vous quittez saint Thomas, vous ne pouvez plus justifier cette mystique de saint Jean de la Croix. Alors, comprenons ce que Jésus nous dit ici. Et voyez bien, Jésus dit ça, non pas à saint Jean, il dit ça à Judas, non pas à l'Iscariote. C'est impressionnant, parce que Judas, le disciple du Christ, n'est pas plus mystique qu'un autre. S'il le disait à Jean, on dirait, oui, ses propres disciples bien-aimés. Marie, il la donne à Jean, pas à Judas. Il le dit donc pour tous ses apôtres. Non pas du tout comme des grâces exceptionnelles. C'est sûr que saint Jean de la Croix sont des grâces exceptionnelles. C'est sûr. Mais même saint Jean de la Croix, il écrit pour ses carmélites. Il leur dit jamais, ah oh, ces grâces, vous savez, il n'y a que moi qui les ai. Hein. Non, c'est des grâces tellement extraordinaires. Si saint Jean de la Croix avait dit ça, vous comprenez bien, il n'aurait pas écrit. Parce que ça aurait été un orgueil fou. Et il ne serait pas saint. Tandis qu'il le dit comme la vie normale chrétienne. Une vie chrétienne qui veut s'épanouir pleinement doit être contemplative. C'est-à-dire une vie chrétienne qui est sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint, qui sont enfants de Dieu. Et saint Thomas n'hésite pas. Évidemment, il n'a pas encore connu saint Jean de la Croix. Saint Thomas n'hésite pas de dire, en commentant dans l'Épître aux Romains, l'Esprit Saint, au plus intime de nous-mêmes, nous fait dire « Abba, Pater ». C'est très beau passage. C'est l'Esprit Saint qui nous fait dire « Père ». C'est l'Esprit Saint qui nous fait dire « Jésus ». En considérant Jésus comme le Fils bien-aimé qui nous est donné. Et c'est l'Esprit Saint qui, du plus profond de notre âme et de notre volonté, nous meut. Il y a un contact direct avec les trois personnes divines. Et saint Thomas considère que être mu par l'Esprit Saint, c'est normal pour un chrétien. Il n'hésite pas de dire que quelqu'un qui assiste avec un peu de ferveur à la messe et qui pendant quelques minutes n'a pas de distraction, 5 minutes, n'a pas de distraction. C'est sous la mouvance du Saint-Esprit. Si l'Esprit Saint n'était pas là, vous seriez comme le gosse à qui on fait le catéchisme. Il écoute le chant du moineau, du rossignol, il regarde le bruit à droite, à gauche. On a l'impression qu'il n'est pas très présent, il est quand même présent à la manière d'un gosse. On est comme ça pour le Saint-Esprit. On ne peut pas rester 5 minutes en prière avec un peu de ferveur sans que l'Esprit Saint soit là, sous sa mouvance, sans qu'on soit sous la mouvance de l'Esprit Saint. Il ne faut pas considérer que les dons du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est une erreur de certains théologiens qui considèrent que les dons du Saint-Esprit, c'est de l'extraordinaire. Non. L'extraordinaire, c'est les charismes. Bien comprendre ça. Alors que les dons du Saint-Esprit sont dans le prolongement de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de notre propre sainteté. Et les dons du Saint-Esprit sont là pour l'exercice divin, donc un exercice tout intérieur. De la foi, de l'espérance, de la charité. Les dons du Saint-Esprit intériorisent l'âme de la manière la plus divine qui soit, pour que nous puissions vivre le mystère de l'amour de Dieu de la manière la plus simple. J'allais presque dire sans effort, vous voyez. Quand l'Esprit Saint n'est pas là, on fait des efforts, on se tend. On tend l'arc, que voulez-vous, faut bien, pour pas votre distraction. Alors on tend l'arc, c'est-à-dire je veux vous aimer, et on fait avec le plus de force possible. Je veux croire en vous. Vous voyez, on se mobilise pour être présent à Dieu, ce qui est normal, il faut le faire. Et l'Esprit Saint aime bien qu'on fasse ça, parce que ce sont des efforts louables. Quand vous voulez tirer quelque chose qui est difficile, vous faites un effort. Et vous ne feriez pas d'effort pour être présent à Dieu, ce serait triste. C'est vrai, quand on veut pousser une voiture en panne, on fait des efforts. Quand on veut porter des poids lourds, on fait des efforts. On trouve ça normal. Quand vous entrez au cœur pour faire oraison, vous mobilisez la machine. Vous vous mobilisez entièrement, vous faites un effort. L'Esprit Saint aime ça. L'Esprit Saint ne vient que si de notre part il y a ça, cet effort, concentration, d'appel, de désir. Et puis, tout d'un coup, l'Esprit Saint nous prend. Les pères de l'Église font toujours la comparaison, vous savez, ramer. Souvent à contre-courant. C'est vrai, souvent à contre-courant. Le matin, quand vous faites oraison, c'est à contre-courant. En tout cas, vous aimeriez mieux continuer de dormir. Donc c'est à contre-courant. Et le soir, vous aimeriez mieux aimer regarder la télévision. C'est à contre-courant. C'est bien évident. Ou faire autre chose. Pour rappeler. Et quand l'Esprit Saint est là, on ouvre les voiles. Alors, si on est très astucieux, on continue de ramer. Et c'est ce que l'Esprit Saint aime, du reste. On continue de ramer. Mais il y a une détente intérieure. Eh bien, c'est sous l'action de l'Esprit Saint et des dons de l'Esprit Saint que notre vie chrétienne de grâce, de plénitude de grâce, de sa plénitude, nous avons tous reçu. C'est sous l'action d'Esprit Saint que la plénitude de grâce chrétienne que nous avons au plus intime de notre âme, transformant notre intelligence par la foi, notre espérance, notre volonté par l'espérance, et par la charité. Sous l'action de l'Esprit Saint, des dons de l'Esprit Saint, que ce contact intérieur se réalise dans l'amour, dans l'obscurité de la foi, en attente de la vision béatifique. Et c'est sous l'action direct de l'Esprit Saint, sous le souffle de l'Esprit Saint, que se réalise cette vie qui est divine, mais qui est notre vie, puisque c'est nous-mêmes qui sommes attentifs, qui avons ramé et qui continuons de ramer. Attentif à ce souffle de l'Esprit Saint, attentif à cette présence du Père, in sinu patris, attentif à cette lumière aimante du Verbe qui se donne à nous à travers le cœur de Jésus. Et attentif à ce feu brûlant d'Esprit Saint. C'est vraiment le mystère de notre vie chrétienne. Ce n'est pas d'extraordinaire. Nous sommes tous faits pour cette oraison, cette contemplation, cette attente de la vision béatifique. Si on voulait comprendre parfaitement ce que saint Jean de la Croix nous dit, il faudrait regarder maintenant le terme vers lequel nous tendons, la vision béatifique. Nous sommes faits pour la vision béatifique. Notre grâce est une semence de gloire. Et puisque notre grâce est une semence de gloire, notre grâce actuelle, et saint Jean de la Croix insiste, ici sur terre, notre grâce s'épanouissant dans la charité vit déjà dans l'obscurité de la foi, dans la pauvreté de l'espérance, vit déjà substantiellement tout ce qu'elle vivra dans le ciel. C'est pour ça que si on veut comprendre au plan théologique ce que représente cette vie trinitaire, au plus intime de notre âme, dans l'abîme de Dieu. Et saint Jean de la Croix fait, dans un passage, je ne l'ai pas retrouvé, je voulais vous le lire, parce que c'est tellement beau, où saint Jean de la Croix regarde ce qu'il y a de plus profond dans l'âme, l'abîme, le centre de l'âme, qui rejoint le mystère même de Dieu. Et si on lisait saint Jean de la Croix d'une certaine manière, on dit, saint Jean de la Croix confond alors. Dieu et l'âme, pas du tout. Il ne confond pas. Mais il y a une unité de vie qui se réalise, qui se réalisera pleinement dans la vision béatifique, et qui se réalise déjà dès ici-bas. Mais c'est net pour saint Thomas. Nous vivons maintenant, sur la terre, dans l'obscurité de la foi et dans la pauvreté de l'espérance, substantiellement, ce que nous vivrons dans le ciel. Du reste, c'est dit, hein, saint Paul le dit, quand il parle des trois grandes vertus théologales, la foi disparaîtra, l'espérance disparaîtra, la charité demeure. C'est la même. Ici sur la terre et dans le ciel. Et la vision béatifique, c'est à l'intérieur de ce mystère de charité que la lumière de la lumière nous est donnée. Et va nous illuminer de l'intérieur. À travers cet amour et dans cet amour. Nous comprenons donc qu'il y a une continuité de vie divine entre cette terre et le ciel. Il y a une différence totale au point de vue psychologique. Il n'y a pas de commune mesure. Parce que psychologiquement, vous ne pouvez pas expliquer ce que c'est que l'oraison et la vie contemplative et la demeurance des trois personnes divines. Peut s'expliquer que dans un regard théologique, est une théologie très pure. Il y a dans cette charité, cet amour divin qui nous est donné, il y a contenu virtuellement tout le mystère de la gloire. Semence de gloire. Or, la vision même, la vision béatifique, cette vision que nous aurons un jour, c'est Dieu lui-même qui prend possession de ce qu'il y a de plus profond dans notre âme spirituelle, dans notre âme transformée par la grâce, en donnant ce lumen glorié, cette lumière de gloire, qui nous permet de voir directement Dieu en lui-même. Voir Dieu en lui-même, c'est de voir Dieu comme il se voit. C'est donc vivre du regard du Fils sur le Père et le regard du Fils dans le Père sur l'Esprit Saint. C'est la vie même de la très sainte Trinité, vie contemplative, c'est-à-dire vie de lumière et d'amour. Et la vie de lumière et d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint sont la même vie dans les... Ça nous dépasse complètement. Nous l'affirmons, c'est notre foi. Il y a donc une connaissance intime de lumière et d'amour qui porte sur les trois personnes. Et cette connaissance nous est donnée difficilement pour la charité. À travers la foi et l'espérance, sous la mouvance du don de sagesse, d'intelligence, de crainte. C'est la charité divine, la plénitude de la charité divine, dont il manque. Il est toute la grâce, oui, voilà, la charité, la foi et l'espérance qui permettent, dans l'amour, dans la charité, ce contact particulier avec Jésus, avec le Verbe de Dieu, c'est le frère. À travers la blessure du cœur du Christ, selon l'évangile de Jean, puisque c'est la dernière révélation, la blessure du cœur du Christ soir, que nous atteignons le Verbe de Dieu, que nous sommes en lui, que nous demeurons en des termes mêmes de Jésus, en demeure, en dresse Satan. Mais fixons lui et lui nous porte et lui nous transforme dans sa lumière, il nous transfigure. C'est dans cette lumière que nous demeurons dans le Père, in sinu patris, le Fils demeure dans sa lumière. C'est-à-dire qu'il demeure dans ce jaillissement d'amour et de lumière qui vient du Père. Il vit sa vie de fils. Et vivre sa vie de fils, c'est vivre le mystère de la paternité. C'est vivre tout entier relatif au Père.
dans son intimité avec le Père. Sous le souffle de l'Esprit, c'est-à-dire dans l'amour. Dans ce sort d'extase d'amour, sorti de nous-mêmes. Pour donner face à Jésus, au Père de la chair. Quand par lui, on est auprès du Père, à tout le Padre, in sino Patris, quand on est dans le sein du Père, avec le Fils bien-aimé. Et ceci, c'est la dépendance de l'Esprit Saint. On demeure en Dieu, et Dieu demeure en nous. C'est bien ça l'extase. L'extase, c'est cette sortie de nous-mêmes vers celui qui nous attire, vers celui qui est tout pour nous, qui suscite en nous cet amour. On est sorti de soi pour demeurer en Dieu. Voyez ce mystère de la demeurance des trois personnes divines au plus intime de notre âme. C'est le mystère de la grâce chrétienne. Pleinement vécu. Réalise même de la grâce dans ses exigences les plus profondes et les plus simples. Notre Seigneur le dit d'une manière très nette à Nicodème. C'est même assez extraordinaire de mettre en parallèle ce passage avec ce discours de Jésus à Nicodème. C'est tout à fait au début, selon l'évangile de Saint Jean. C'est lorsque Jésus est à Jérusalem, après avoir chassé les vendeurs du temple. C'est Nicodème qui vient auprès de lui, en le saluant. Très bien, c'est qui Nicodème. C'est peut-être un de ces docteurs de la loi qui avait été en admiration devant l'enfant Jésus de 12 ans. Pendant ça, Nicodème au ciel. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, quelques années après, 20 ans après, c'est pas beaucoup pour un théologien 20 ans, à peu près 18 ans après, parle de quelqu'un qui vient de Nazareth. Jésus. Il veut avoir le cœur net. Il cherche la vérité. Autant qu'il le peut. Mais dans le contexte dans lequel il est, c'est pas commode. C'est souvent ce qui arrive. Le contexte des théologiens n'est pas commode. Hein. Surtout aujourd'hui. On le sait. Pour sortir, pour être libre. Et Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la très sainte Trinité. Il faut naître de nouveau. Et Jésus précise naître de l'eau et de l'esprit. Et ensuite, il monte. Père a tellement aimé les hommes, Dieu a tellement aimé les hommes, qu'il leur a donné son Fils. Je crois que tout est là. Cette naissance éternelle à la vie divine, perpétuelle. Actuellement, nous naissons à la vie divine. si nous le voulons. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est notre bonne volonté. Et comme notre bonne volonté est très fragile, l'eau, c'est aussi la bonne volonté de notre mère, Marie. Il y a un lien entre l'eau et Marie, toujours. L'eau, c'est notre bonne volonté. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. On ne peut pas vivre, s'élever avec la très sainte Trinité sans qu'il y ait en nous un très grand désir d'en vivre. Une bonne volonté à passer autrement. Il faut naître de l'esprit et de l'eau. L'esprit, c'est l'amour. C'est dans l'amour que se fait cette naissance. Et la source de ce don d'amour, c'est Jésus crucifié. C'est la blessure du cœur de l'agneau. Et ce don de Jésus, c'est le Père qui nous le fait. Vous voyez bien, la naissance et la vie divine se fait dans la très sainte Trinité. Jésus dit textuellement à Nicodème. Il nous fait comprendre que naître à la vie divine, c'est être en présence de l'Esprit Saint, en présence de Jésus, en présence du Père, porté par notre bonne volonté et surtout celle de Marie. Il suffit de comprendre cette naissance à la vie divine. Vous voyez bien que c'est en connaturalité directe avec la grâce. Naissons à cette vie divine et nous naissons dans le mystère de la très sainte Trinité. Et le mystère de l'oraison, c'est vivre de cette nativité, de cette naissance éternelle. On la vit ici, dans l'obscurité, à tâtons. On la vit dans la pauvreté, puisque nous ne pouvons pas, quand nous voulons, en vivre. Nous pouvons seulement en avoir le désir, le très grand désir, quand nous voulons. Cela dépend du souffle de l'esprit. Et Jésus le dit, celui qui est né de l'esprit, il entend la voix du vent. Il ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. C'est la plus grande pauvreté. Même, ordinairement, on aime bien de savoir d'où on vient et où on va. Pour un homme adulte, surtout aujourd'hui, il faut accepter de le savoir. Voyez comment la théologie peut devenir un obstacle terrible à cette vie divine. Quand les théologiens aiment mieux leur conclusion que la parole. Quand les théologiens aiment mieux le raisonnement que le souffle de l'Esprit Saint. Je comprends qu'on aime beaucoup ces raisonnements, mais ça vient de nous. Tandis que le souffle de l'Esprit Saint, ça ne vient pas de nous. Il s'est levé dans un état de petitesse. Les deux ne doivent pas s'opposer. Mais hélas, très facilement, ils opposent. Parce que l'Esprit Saint aime bien les théologies. Frapper. Et la théologie, il y a rarement. Je vous affirme, vous sentez. On vous fait ramer avec des obstacles. Et que ça aime qu'on rame. Mais on ne rame pas pour le plaisir de ramer. On rame pour être un jour sous le souffle de l'Esprit Saint. Et pour laisser l'Esprit Saint nous emporter là où il veut. Et comme il veut. Ce mystère même de notre grâce chrétienne qui s'épanouit dans la foi, l'espérance et l'amour sous la mouvance et dans le Saint-Esprit fait que nous sommes tout entiers tournés vers Dieu et le Dieu Trinité parce que c'est notre vie surnaturelle. c'est à l'intérieur même du mystère de Dieu que se fait cette révélation de lumière et ce don d'amour. C'est au plus intime de notre âme, transformée par la grâce, que se fait cette révélation et cette vie d'amour avec le Fils, le Père et l'Esprit. Avec l'Esprit, le Fils et le Père. Il n'y a plus de distance, on est dans l'ordre divin. Il n'y a rien extérieur à Dieu. À nous, oui, mais pas à Dieu. Or, la grâce nous met dans un ordre divin. Il fait que la grâce porte notre âme et l'élève jusqu'à Dieu et nous permet de regarder d'une manière toute intime et toute profonde le mystère de Dieu. Cette présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, c'est une présence qui se fait dans l'amour, dans la grâce. Elle nous prend du plus intime de nous-mêmes, dans cet abîme de profondeur substantielle de notre âme. Elle nous saisit l'intérieur pour ouvrir l'œil intérieur de l'âme, pour ouvrir de l'intérieur ce qu'il y a de plus profond dans notre amour, nos désirs. Et elle nous met dans cette unité avec Dieu. Il n'y a plus d'extériorité dans la vie divine entre Dieu et nous. Et c'est pour ça que Saint Jean de la Croix dit que ce qu'il y a de plus profond dans notre âme rejoint le mystère de Dieu, dans l'amour. Ce n'est pas du panthéisme, parce que nous savons que nous sommes dans l'ordre divin, et non pas dans l'ordre de la création. Dans l'ordre divin, il y a cette transformation qui se fait au plus intime de notre âme par la grâce, qui fait que du dedans, nous regardons Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire à la fois que ça nous élève, que c'est extatique, et en même temps ça nous remet dans une profondeur intime, d'intériorité unique, où nous pouvons toucher, regarder, aimer le mystère même du Fils comme Fils, du Père comme Père, et de l'Esprit Saint en tant qu'il est l'amour du Père et du Fils. Le rôle de Marie est de nous maintenir dans la docilité à l'égard de l'Esprit Saint, en écartant certains obstacles imaginaires, en nous maintenant dans une bonne volonté et dans une attention toujours actuelle.